Prenons nos Bibles et regardons ensemble dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 14. Et aujourd'hui, mon texte se trouve du verset 25 jusqu'au verset 31. Et je voudrais vous parler de la paix que donne le Seigneur Jésus, la paix. Pas comme le monde donne la paix, ou bien comme le monde dit souvent, sois en paix. Donc, cette paix, donc, dont nous lisons ici, c'est la paix que donne le Seigneur Jésus, un sujet très important pour nous qui sommes les enfants de Dieu. Alors, Christ, comme nous avons vu jusque-là, prépare ses disciples pour son départ, c'est-à-dire pour aller à la croix et à mourir. À leur place, il y a beaucoup en cela qui ne comprenaient pas jusque-là. C'est fort possible que les disciples anticipaient, comme beaucoup aujourd'hui, que le Christ devait rester sur cette terre et régner dans un royaume terrestre. C'est sûr, en lisant dans Actes chapitre 1, le verset 6, qu'ils avaient toujours cette pensée, même jusqu'au jour où Christ est monté au ciel, parce qu'ils ont posé la question après sa résurrection dans Actes 1 et le verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? C'était un enseignement qui était très populaire à leur jour, et je dois dire, est populaire encore aujourd'hui. Beaucoup de ceux qui se nomment chrétiens pensent que Christ doit revenir et établir un royaume terrestre à Jérusalem. On parle du règne de 1000 ans. Mais je dois dire que à la Bible, nulle part, nous ne voyons cet enseignement de cette manière. Le royaume de Christ est là où le roi règne. Et nous savons que Christ règne maintenant. Donc, beaucoup de ce qu'il disait à ses disciples au sujet de son départ et du fait qu'il ne pouvait pas le suivre, c'est-à-dire Christ devait aller à la croix seul et il devait être soumis à la mort comme le substitut pour que la justice de Dieu soit satisfaite. Aucun disciple, même aucun de nous, ne pouvait contribuer à cette œuvre de Christ. Il fallait qu'il aille seul à la croix et qu'il soit sacrifié comme l'agneau de Dieu, seul, sans la contribution d'un pécheur quelconque. Voilà le problème avec l'enseignement aujourd'hui au sujet du salut. C'est que l'homme a sa part à contribuer, mais nous ne voyons nulle part dans la Bible cet enseignement. Si l'homme a quelque chose à contribuer à la mort de Christ, c'est le péché, c'est tout. S'il est mort pour moi, tout ce que j'ai pu contribuer à cela, c'est mon péché. C'est à cause de mon péché qu'il a été cloué à la croix. Alors, il faut dire que cet enseignement de la mort de Christ et où il allait et comment il devait subir les souffrances de ceux de Jérusalem, ça a troublé, franchement, les disciples, et on peut savoir pourquoi. C'est pourquoi au début de ce chapitre, dans Jean 14, Christ a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Les disciples étaient troublés, mais non pas notre Seigneur. Il s'est soumis à la volonté de son Père pour accomplir cette œuvre du salut à la place de ces pécheurs que le Père lui a donné. Et c'est avec joie qu'il accomplissait cela. C'est pourquoi il pouvait parler à ses disciples calmement, de la manière qu'il est en train de parler. C'est lui le grand berger. Ceux-là étaient des brebis qui étaient troublées. Mais comme nous avons déjà vu, il a promis de ne pas les laisser orphelins. Quand il dit dans le verset 18, « Je viendrai à vous », il est en train d'annoncer même avant sa mort, sa résurrection. Et du fait que, à sa résurrection, il est revenu envers ses disciples et s'est révélé de nouveau à eux pour encore les réconforter, de savoir que tout ce qui s'est passé dans sa mort et dans sa résurrection était conformément à ce que les Écritures annonçaient d'avance. Donc c'est pourquoi il dit ici dans Jean 14, le verset 25, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. » Je remercie le Seigneur pour sa parole, que nous avons le privilège de revenir là-dessus et de lire tout ce qui s'est passé, et que l'apôtre Jean, dirigé par l'Esprit de Dieu, a écrit ces choses afin que la foi de ceux que Christ a sauvés soit fortifiée. Alors, une fois encore, le Seigneur Jésus parle du Consolateur. Quel est le rôle du Consolateur? Nous avons vu la dernière fois, c'est de consoler. C'est de venir à côté et de supporter, de soulager, de servir comme avocat dans la faiblesse d'un autre. Et c'est ce que Christ dit, que lorsque même il a fini son œuvre sur cette terre et qu'il s'est remonté au ciel, qu'il enverrait le Consolateur, ce n'est autre que, ici c'est écrit, le Saint-Esprit, c'est même l'Esprit du Christ, parce que ailleurs, dans le verset 16, il appelle un autre consolateur. Le sens là, c'est un autre consolateur comme moi, Christ parlant là. Mais dans le verset 26, nous avons la divinité qui est révélée là, le Saint-Esprit, qui est le consolateur, que le Père, donc ça c'est le Père, le Saint-Esprit, et puis enverra en mon nom. Donc voilà la divinité, ce que les théologiens appellent la Trinité. Ce n'est pas qu'il y a trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu, mais en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les trois sont un, non seulement dans leur personne, en tant que Dieu dans la divinité, mais en ce qu'ils font dans l'œuvre du salut. Ils sont en harmonie. Et pour cela, ça rassure ceux qu'ils sauvent que ce salut, c'est de Dieu. Je préfère croire à un salut qui est entièrement de Dieu, en tant que pécheur moi-même, que de croire que c'est Dieu qui fait sa part, mais c'est maintenant au pécheur de faire sa part. Si j'ai une part à faire en cela pour que ça soit accompli, donc il n'y aurait jamais de salut. Mais voilà encore, puisque le sujet ici, c'est la paix que donne le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est une assurance, ça, c'est une paix véritable pour un pécheur tel que je suis, de savoir que mon salut ne dépend pas de moi, mais ça dépend de ce que le Père, d'abord, a ordonné depuis l'éternité. C'est lui qui a choisi ceux qui devaient être sauvés. Et puis, au moment voulu par Dieu le Père a envoyé son Fils dans ce monde pour effectivement accomplir le salut à l'égard de ces pécheurs que le Père a aimés depuis l'éternité. Donc, nous avons non seulement le décret de Dieu en ce qui concerne le salut, mais l'amour de Dieu qui ne change pas. Voilà la différence entre le Dieu de la Bible et le Dieu qui est prêché populairement dans nos jours, que oui, Dieu aime tout le monde, mais en fin de compte, si vous n'arrivez pas à croire en lui, alors il va vous envoyer à l'enfer. Ça, c'est quel amour, ça? Non, ce que Dieu aime, il aime pour toujours. C'est pourquoi il sauve. Et si aujourd'hui, vous et moi, nous sommes en train d'écouter cette parole et nous avons reçu cette parole dans la foi, ce n'est pas de nous. C'est parce que Dieu l'a voulu. Et il ne nous a pas laissés à nous-mêmes. Mais il a envoyé son esprit, ce consolateur qui vient et à travers la prédication de l'évangile révèle Christ dans le cœur, nous donne des yeux spirituels pour regarder en dehors de nous-mêmes et regarder à Christ, celui qui est venu donner sa vie, ressuscité et monter au ciel où il est assis à la droite de la majesté divine et il intercède en faveur de chacun pour assurer que chacun de ceux que le Père lui a donné soit attiré à lui. Que chacun de ceux pour qui il a payé la dette entre véritablement dans ce salut. Christ lui-même a dit qu'il ne perdra rien de ce que le Père lui a donné. Voilà un salut sûr parce que c'est de Dieu du début jusqu'à la fin. Alors c'est sur cette base que le Seigneur Jésus enseigne maintenant ses disciples pour qu'ils soient rassurés face à la réalité de sa mort. Pour ceux qui étaient avant la croix, selon les Écritures, la foi qui leur a été donnée était de regarder vers cette croix et cette œuvre que Christ devait accomplir. Nous, aujourd'hui, ce même consolateur nous donne des yeux pour regarder encore à la croix et à celui qui a accompli l'œuvre, mais c'est le même objet de la foi. C'est le même esprit. L'esprit, comme Christ le dit, ne parle pas de lui-même, mais il prendra des choses qui concernent Christ et il les révélera à ses disciples. C'est pourquoi ici, dans le verset 26, il dit, ce même Esprit Saint que le Père enverra, notez, en mon nom. Donc, le Père a donné toute la gloire à son Fils, l'Esprit donne toute la gloire à son Fils, en mon nom. Dieu ne fait aucune œuvre en ce qui concerne le salut, la bénédiction, si ce n'est à travers le Seigneur Jésus-Christ. Et à part les œuvres que nous pouvons faire, nos œuvres ne sont que la souillure devant Dieu. C'est l'œuvre de Christ seul qui justifie les pécheurs. Et donc, lorsque le Saint-Esprit devait venir dans le monde après que Christ est monté au ciel, c'est écrit ici dans le verset 26, « Il vous enseignera toutes choses ». Nous n'avons pas à spéculer aujourd'hui. Il y a beaucoup de spéculation de la part des gens, mais si ce n'est pas écrit ici, dans cette parole inspirée, alors nous ne devons pas réfléchir là-dessus. Tout ce qui est nécessaire pour notre compréhension, pour nous de savoir comment Dieu est Dieu et comment Dieu peut justifier les pécheurs et a justifié les pécheurs à travers son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, on n'a plus besoin d'autres révélations. Pourtant, aujourd'hui, les gens courent partout pour savoir quelle est la nouvelle révélation qu'on va recevoir de la part d'un soi-disant prophète. Mais ce sont des faux prophètes parce que ici, Christ précise, c'est l'Esprit, lorsqu'il serait venu, qui vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est pourquoi nous pouvons lire aujourd'hui ces évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, les épîtres de Paul, tout cela est selon l'Esprit de Dieu qui a rappelé au cœur de ces auteurs, ces écrivains, c'est ce qu'ils étaient, ils prenaient et ils écrivaient ce que l'Esprit rappelait au cœur concernant le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous pouvons nous fier et nous confier à cette parole que nous lisons maintenant. Parce que c'est le même consolateur qui s'est révélé dans ses disciples pour accomplir leur mission qui est aujourd'hui dans le monde et qui agit dans les cœurs des prédicateurs que le Seigneur suscite pour envoyer partout dans le monde pour prêcher l'évangile. Alors voilà la fondation, voilà la base sur laquelle on peut maintenant lire dans le verset 27 qui est le thème de cette étude, la paix que donne le Seigneur Jésus. Déjà, tout ce que je viens de citer pour moi me réconforte. Voilà la paix de savoir qui est Dieu et qui est le Seigneur Jésus-Christ et qui est son esprit et comment Dieu a œuvré et œuvre encore pour le salut d'un pauvre pécheur tel que je suis. Mais Christ leur dit dans le verset 27, « Je vous laisse la paix. » Il n'a pas dit « Je vous laisse en paix » comme on dit à quelqu'un quand ils ne veulent pas écouter ce que nous avons à dire. « Bon, je vous laisse en paix. » Cela veut dire « Je ne vais plus vous troubler avec cet enseignement. » Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit « Je vous laisse la paix. » Et c'est écrit particulièrement avec cet article définitif, parce qu'il n'y a pas de paix en dehors de cette paix que donne le Seigneur Jésus-Christ. Quand on considère la paix, parce qu'il dit, notez bien la deuxième partie, je vous laisse la paix, et puis il précise, je vous donne ma paix. Donc, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de véritable paix si ce n'est en Jésus-Christ qui est la paix. Alors, comment est-ce que cette paix de Christ se distingue de ce que les gens parlent dans le monde? Parce qu'il dit ça, je ne vous donne pas comme le monde donne. Aujourd'hui, dans le monde, on peut parler de la paix, on peut dire que nous sommes en paix, et puis demain, voilà, c'est la guerre. C'est la même chose dans un foyer. Aujourd'hui, on peut être en paix, comment va l'époux, l'épouse, oui, tout va bien, il y a de l'harmonie, et puis demain, voilà, tout est bousculé. Ça, c'est une paix temporaire. Ça ne dure pas, parce que ça provient des efforts et relations humaines. Mais quand Christ dit « Je vous laisse la paix, ainsi que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ça, c'est une bonne consolation pour nos vies de tous les jours, parce que lorsque nous nous levons, peut-être qu'on a bien dormi la nuit, bien reposé, on se lève, et il me semble que voilà, aujourd'hui sera une bonne journée, et voilà une nouvelle qui arrive, ou voilà un événement qui vient nous troubler. Mais même en cela, nous ne devons pas être troublés, sachant que tout provient de la main du Seigneur. C'est pourquoi nous avons cette révélation de Christ, que tout ce qui se passe dans ce monde, il est le souverain. Il est le souverain comme le créateur de toutes choses. Il est le souverain en dirigeant toutes choses selon sa volonté. Tout provient de sa main. Il est le souverain en ce qui concerne le salut et ceux qu'il sauve. Et il est le souverain dans le jugement. Lorsqu'il rend son jugement, il est juste en tout ce qu'il fait en tant que souverain. Donc, sachant cela, pour ceux qui lui appartiennent, cela est le fondement de leur paix. Quand il dit « Je vous laisse la paix », nous pouvons avoir la confiance que tout ce qui se passe dans nos vies provient de lui. Et cela nous fait reposer en lui. Voilà la paix. Et comme j'allais dire tout à l'heure, il y a trois aspects de cette paix qui est véritablement du Christ. Et tout d'abord, on doit parler de la paix qui est la nôtre à travers la mort du Seigneur Jésus-Christ. Quand les Écritures l'appellent le prince de la paix, c'est parce que en lui et à travers sa vie et sa mort, c'est lui qui a établi la paix entre son Père, Dieu le Père, et ses pécheurs pour qui il est mort. La mort de Christ satisfait à la loi et la justice de Dieu le Père. Et en tant qu'agneau de Dieu, c'est Christ qui a supporté la colère de Dieu qui devait être la nôtre. Et puisque Christ l'a supporté à la satisfaction de son Père, donc il ne reste plus que la paix à attribuer à ceux pour qui Christ est mort. Voilà une bonne nouvelle. Quand on parle d'être justifié devant Dieu, acquitté, toute culpabilité devant Dieu, c'est à cause de la mort de Christ. Ce n'est pas lorsque nous croyons que Dieu alors justifie le pécheur. Non, la justification du pécheur était accomplie à la croix. C'est le péché qui était mis au compte de Christ, de ceux pour qui Christ est mort, et lorsqu'il a rendu sa vie, Dieu, il ne restait plus que pour Dieu le Père d'imputer, de mettre au compte spirituel de chacun pour qui Christ est mort, la justice. C'est pourquoi la Bible appelle cela les saints. Ce n'est pas parce que nous sommes saints en nous-mêmes, mais cette sainteté provient de l'œuvre de Christ et c'était accompli dans sa mort. Donc, lorsque nous sortons pour prêcher l'évangile, prêcher Christ, nous prêchons un message qui dit à ceux pour qui Christ est mort que l'œuvre est accomplie et que il y a eu cette réconciliation maintenant entre un Dieu saint et les pécheurs pour qui Christ est mort. Nous ne savons pas qui ils sont et nous ne sommes pas là pour inviter les gens à faire quoi que ce soit. Notre rôle en tant que prédicateur, c'est d'alors aller sortir et prêcher la paix de Dieu en Jésus-Christ accomplie par sa mort. Et s'il y en a que l'Esprit maintenant attire à ce Christ et qu'ils manifestent cette foi en lui, nous pouvons leur dire que cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Mais c'est parce que l'œuvre a été accomplie bien avant qu'on ne soit né dans ce monde. Ça a été accompli à la croix. Voilà pourquoi l'évangile est appelé la bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle de dire aux gens que voilà ce que Christ est venu faire, mais hélas, à vous de compléter maintenant, achever. Ça serait comme si quelqu'un vous promettait une maison. Mais il bâtissait la maison, mais il laissait la plupart inachevée. Et vous n'avez rien, il n'y a même pas de toit dans la maison, il n'y a pas de porte, fenêtre. Le fondement a été posé, mais à vous maintenant d'achever la maison. Pourtant, vous n'avez même pas un sou. Comment est-ce que vous allez achever une telle maison et entrer dedans et demeurer dedans? Vous ne pouvez pas. Ça, c'est le salut qui est prêché partout dans le monde aujourd'hui, mais ce n'est pas le salut de Dieu, ce n'est pas le salut dont nous lisons ici. Nous avons une maison en Jésus-Christ déjà préparée, tout fini, où Dieu, par son esprit, ouvre la porte et nous entrons dedans et tout est déjà fourni là-dedans. Nous n'avons rien à contribuer pour l'achever, c'est fini. Tout a été accompli à la croix. Ah, quelle paix de savoir que Dieu est satisfait et ce n'est pas à moi de devoir offrir quoi que ce soit pour que cette œuvre soit achevée. Donc, ça c'est un aspect de la paix quand Christ dit, je vous donne ma paix. C'est cette paix que lui-même il a accomplie à la croix à l'égard des pécheurs tels que nous sommes. Mais deuxièmement, le deuxième aspect de cette paix, c'est aussi ce que nous lisons ici, c'est lorsque l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, le Consolateur, vient et habite dans ces pécheurs-là pour qui Christ est mort, alors il y a une paix intérieure produite par le Saint-Esprit. C'est là la paix avec Dieu, dans le sens que par la foi maintenant, nous avons cet accès auprès de Dieu grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Nous ne devons pas avoir peur de nous approcher de Dieu, quoiqu'il est saint, parce que c'est le sang de Jésus-Christ qui a ouvert ce chemin pour que nous ayons maintenant cette communion avec Dieu dans son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, mais toujours à travers le Saint-Esprit. Ça, c'est une grâce de pouvoir appeler Dieu notre Père, exactement comme Christ a appelé Dieu son Père. Donc, nous approchons de lui, pas dans la crainte de la servitude, mais comme des enfants. Et par l'Esprit, nous crions « Abba, Papa ». Voilà le sens du mot « Abba, Abba Père ». Oh, quelle paix! Donc, il y a la paix avec Dieu en Jésus-Christ à cause de la mort de Christ, et il y a la paix en Dieu à cause de ce que Christ a accompli et par son Esprit. C'est la paix au cœur. Et c'est pourquoi Christ dit ici que votre cœur, vous voyez ça dans le verset 27, Jean 14, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Combien de fois notre cœur est troublé et nous sommes alarmés, mais c'est parce que nos yeux ne sont pas sur Christ. Nous regardons autour de nous, nous voyons les circonstances, comme les disciples qui étaient dans le bateau avec Christ, lorsque Christ se reposait, mais l'orage a bousculé le bateau, et ils avaient peur, ils ont crié, nous périssons, pourtant Christ était là, dans le bateau avec eux. Et c'est lorsqu'il s'est levé pour calmer la mer qu'ils ont vu son autorité. Voilà cette paix que nous avons tous les jours, quels que soient les problèmes que nous traversons maintenant. Et nous en avons tous. Souvent, nous imaginons que c'est nous seuls qui avons ces problèmes. Non. Chacun a chacun ses problèmes, mais selon ce que Dieu ordonne. Et en cela, nous ne devons pas être troublés ni être alarmés, mais regarder à Christ et savoir que tout ce qui m'arrive me provient de sa main, me provient de celui qui est assis sur le trône. Mais troisièmement, un troisième aspect de cette paix, donc, Christ parle ici dans le verset 27 quand il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » C'est la paix avec l'autrui. C'est la paix avec nos voisins, la paix avec ceux qui sont nos frères en Christ. Il ne devait pas avoir de jalousie ou bien de litige entre nous. Parce que si nous avons déjà la paix la plus importante qui est d'être réconciliés avec Dieu, pourquoi nous laisser troubler alors par d'autres pécheurs comme nous et on est toujours en train de combattre avec d'autres? Non, nous sommes en paix, même dans nos situations familiales ou bien dans l'assemblée. Peu importe, nous sommes des pécheurs qui nous nous réunissons ensemble, pourtant nous sommes en paix les uns avec les autres par l'amour de Christ qui est en nous. Et c'est pourquoi dans le verset 21, nous avons vu la dernière fois, Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, j'aimerai et je me ferai connaître à lui. Le même amour qui existe entre le Père, le Fils et ceux pour qui Christ est mort, il y a dans cette famille-là spirituelle une paix qui règne. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problèmes et de difficultés, mais il n'y a pas de la haine qu'on voit souvent dans d'autres milieux, même religieux. Nous avons toutes les raisons d'être en paix avec ceux pour qui Christ a payé la dette. Et c'est sûr, nous ne pouvons jamais être en paix avec ceux qui ne sont pas encore appelés à Christ, qui sont encore dans le monde. Ça, c'est une séparation distincte et nette. Exactement comme la lumière et les ténèbres. On ne peut pas s'entendre. On peut, selon ce que Dieu donne, la possibilité de vivre paisiblement avec ceux qui sont dans le monde, mais on ne peut pas s'entendre parce que les enfants de la lumière ne peuvent pas s'entendre avec les enfants des ténèbres. Mais même en ce qui concerne la famille en Christ, nous venons tous de différents arrière-plans, nous venons tous de différentes cultures, sociétés, etc. Et c'est l'Esprit de la grâce qui nous a placés ensemble. Donc, il ne devait pas avoir de conflit entre nous, parce que le même amour qui règne dans nos cœurs et qui nous donne la paix avec Dieu le Père, cet amour règne entre nous. Et c'est ce qui fait que nous aimons les uns les autres. Ça, c'est le commandement de Christ, d'aimer l'autrui de cette manière. Et nous allons voir ça plus dans le chapitre 15 de Jean. C'est un thème sur lequel le Seigneur continue à insister. Même lorsqu'on lit dans les Épîtres, nous voyons ce même thème continuer d'aimer ceux qui sont aimés de Dieu le Père. Si Christ a payé leur dette, ce n'est pas à moi alors de les refouler ou quoi que ce soit. Même dans leur chute, souvent quand un frère chute, tombe dans le péché, alors il est refoulé. Ah, regardez comment il est tombé. Non. Au contraire, nous devons le recevoir dans l'amour de Dieu et l'exhorter toujours à regarder à Christ. Parce que nous ne sommes pas différents. Je ne suis pas différent. J'annonce Christ aux pécheurs en tant que pécheur moi-même, sachant ce que Christ a accompli pour moi et donc sachant ce qu'il a accompli aussi pour l'autre, si véritablement Christ est mort pour lui. Voilà la paix dans laquelle nous vivons. Alors c'est pourquoi Christ dit ici dans le verset 28, « Vous avez entendu que je vous ai dit, et combien de fois nous voyons le Seigneur parler de cette manière, « Je vous ai dit. » Voilà notre pain quotidien, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous vivons de sa parole, pas seulement du pain physique, mais de celui qui est le pain de vie. « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. » Là encore, quand il dit « je m'en vais », il parle maintenant d'aller à la croix, parce que nous sommes ici à la veille de sa mort. Il est en train de préparer ses disciples pour sa mort. Nous avons déjà vu ça dans Jean 14 et le verset 2 au début de ce chapitre, où il parle de plusieurs demeures, notez, dans la maison de mon Père. De quelle maison parle-t-il ici? C'est cette maison spirituelle. C'est l'Église de Christ, que Christ est venu bâtir sur le fondement de sa vie et sa mort, et dans laquelle maintenant vive chacun pour qui Christ est mort. Et il dit, si cela n'était pas, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et il a dit, je vais vous préparer une place. Cela ne veut pas dire aller préparer une place au ciel. Cela a été déjà préparé depuis l'éternité dans l'élection de la race de Dieu. Mais préparer cette place, il fallait pour que cette maison soit construite, que le fondement soit posé dans la mort de Christ. Sans l'effusion de sang, il n'y a pas d'effusion, il n'y a pas de péché, rémission de péché. Donc, c'est dans ce même sens que Christ dit ici, je m'en vais. Il parle là d'aller à la croix, de mourir. Et quand il dit, je reviens vers vous, il parle du fait qu'après 3 jours et 3 nuits, il devait ressusciter et revenir vers eux. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. La première fois, il a trouvé ses disciples réunis dans une chambre avec la porte fermée, dans la crainte de tout ce qui s'est passé. Ils craignaient pour leur vie. Parce qu'ils étaient les disciples de Christ et ils avaient crucifié Christ et ils craignaient maintenant pour leur vie. Mais Christ est venu entrer vers eux et c'est là qu'il leur a parlé ces mots, que la paix soit avec vous. C'est cette même paix dont il parle ici. Et donc, il dit, si vous m'aimez, ouais, ce n'est pas simplement professer que oui, je crois que Christ est venu, qu'il est mort, il est ressuscité. Non. Cet amour que donne l'Esprit de Dieu au cœur de ceux pour qui Christ a payé la dette, si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Quand il dit je vais au Père, c'est dans deux sens. Il devait se présenter au Père par sa mort, exactement comme le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, entrer dans la présence de Dieu à travers le voile qui se trouvait dans le tabernacle, mais il entrait avec le sang du sacrifice. Christ n'a pas porté devant son Père le sang des boucs et des taureaux, mais son propre sang. Il s'est présenté à son Père et son Père a approuvé, c'est-à-dire sa mort. C'est pourquoi il a ressuscité, ayant accompli tout ce que le Père exigeait de lui. Mais deuxièmement, qu'il devait alors retourner au Père, aller au Père dans l'ascension, où il est aujourd'hui et qu'il vit. Il est assis sur le trône de son Père. Il jouit de nouveau de la présence de son Père, ayant accompli ce que le Père lui a envoyé à faire. C'est de ça que Christ a prié dans Jean 17, la gloire qu'il avait avec son Père avant la fondation du monde. C'est de ça qu'il jouit maintenant. Christ est retourné là au Père et depuis plus de 2000 ans, il est là. Mais le respect qu'il a pour son Père en tant que Dieu, il dit, car le Père est plus grand que moi. Cela ne veut pas dire que le Père est autre que le Fils en ce qui concerne la divinité, mais dans l'hiérarchie que nous voyons dans la Bible, c'est toujours pour la gloire du Père que Christ a accompli son œuvre. Tu vois l'image que nous avons du Père et du Fils, c'est le respect d'un Fils obéissant pour son Père. Ah, quelle gloire! Et c'est ce même amour, celui qui aime Christ aime le Père. On ne peut pas dire que j'aime le Père sans que j'aime le Fils. Pourtant, aujourd'hui, il y en a qui veulent nous faire croire que non, non. Même si quelqu'un ne croit pas au Fils, il peut toujours aimer Dieu, non. L'amour de Dieu est lié, comme nous voyons ici, à l'amour pour Christ. Et cet amour pour Christ, la seule raison que nous l'aimons, c'est qu'il nous a aimés le premier. Donc le rôle du consolateur, c'est de venir et nous donner un cœur d'aimer le Père, mais l'aimer à travers son Fils. Là encore, telle est la paix que donne le Seigneur Jésus. Nous nous approchons de Dieu par son Fils, et c'est ainsi que nous avons toujours cette grâce d'être avec lui. Donc, verset 29, et maintenant, je vous ai dit ces choses, voilà encore, chaque fois, je vous ai dit. Chaque fois que nous avons quelque chose qui nous trouble, ou une question, on ne peut pas savoir pourquoi, il suffit de revenir toujours aux Écritures, de savoir qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Christ dit. Maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent. Ça, c'est rassurant aussi. Voilà la paix de savoir que tout ce qui arrive, c'est le Seigneur, non seulement qui savait d'avance, mais c'est le Seigneur qui a préparé d'avance ce chemin. Autrement, comment est-ce qu'il pouvait dire ces choses avant qu'elles arrivent? Mais je vous dis ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, donc même maintenant, je ne sais pas tout ce qui doit dérouler aujourd'hui. Je peux dire j'ai mes idées, j'ai mes plans, etc., mais je ne sais pas exactement comment les choses vont se dérouler, ni vous. Mais je sais que ces choses vont se dérouler exactement comme Dieu l'a ordonné. Donc cette connaissance nous donne la paix. C'est pourquoi nous pouvons être en paix, quel que soit ce que nous devons aborder aujourd'hui. Parce que Christ a dit, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Alors voilà ce qui nous manque. Mais encore, c'est cette paix que donne le Seigneur, que lorsque le moment arrive et nous devons traverser même des épreuves qu'on n'aurait jamais voulu pour nous-mêmes, mais néanmoins Dieu les a voulu, c'est pour nous éprouver, c'est pour l'exercice de notre cœur que nous continuons à croire. Voilà le rôle du consolateur, de nous soutenir dans cette foi, parce que c'est Dieu qui donne la foi et c'est Dieu qui préserve cette foi en Jésus-Christ. Donc, la conclusion qu'il donne ici dans le verset 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous. » Cela ne veut pas dire qu'il n'a plus jamais dit un mot avec eux, parce que lorsque nous continuons à lire, nous voyons qu'il continue ses enseignements. Mais il parle du moment où il devait aller à la foi. Et que les disciples devaient se séparer, maintenant, être séparés de lui, fuir comme des brebis face au loup. C'est ce qui s'est passé le jour qu'ils sont venus arrêter le Seigneur Jésus-Christ, les disciples ont fui. Et c'est à partir de ce moment qu'ils n'avaient plus rien à dire à ses disciples comme enseignement. Ils devaient, par son esprit, maintenant se rappeler les choses que Christ leur a enseigné. Et voilà comment nous vivons. Nous vivons aux dépens des enseignements du Christ. Mais voilà encore une raison de croire et de se reposer, avoir cette paix en Christ, parce qu'il dit dans le verset 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. » C'est-à-dire, le diable était à ce moment-là acharné pour achever et accomplir la mort de Christ sans savoir que c'est à travers cette mort que Christ était en effet en train d'accomplir le salut pour ces pécheurs qu'il est venu sauver et à travers sa mort enlever les armes du diable lui-même. C'est pourquoi Christ dit « Il n'a rien à moi. Le diable est le diable de Christ. » C'est le Christ qui est le maître du diable. Le diable ne peut rien faire sans que Christ ne lui donne l'autorité. Et aujourd'hui, cette autorité qu'il donne au diable, c'est de continuer à décevoir ceux qui sont dans le monde, qui sont laissés à eux-mêmes. mais il ne peut pas empêcher Christ d'appeler à lui-même, attirer à lui-même ceux pour qui il a payé la dette. Il n'y a aucun cas qui est difficile. Peut-être pour nous, on regarde ceci ou cela, on dit, ah, mais est-ce qu'il peut vraiment être sauvé? Il faut regarder à nous-mêmes. Imaginons que nous avons en nous-mêmes la même nature que tout autre. Et nous ne méritons que la condamnation de Dieu. Mais pourquoi il ne nous condamne pas? Parce que c'est le même diable qui existe auprès de nous, qui est dans le monde. La seule raison, c'est que ce diable n'a rien en Christ. Il ne peut pas empêcher Christ d'achever et accomplir sa mission. Ça aussi, ça nous donne la paix de savoir que tel est le Christ de la Bible. Alors la conclusion de ce message et de ce chapitre ici dans Jean 14, verset 31, mais afin que le monde sache, voilà la première des choses. Ce n'est pas que le monde sache combien j'aime Jésus. Dans la religion, voilà ce qui sort des lèvres des gens, ah, comme j'aime Jésus, comme j'aime Jésus. Non, afin que le monde sache que j'aime le Père. Le salut est une réalité aujourd'hui pour les pécheurs à cause de l'amour de Christ pour son Père. Tout est basé sur cet amour du Fils pour le Père. Voilà pourquoi les pécheurs peuvent jouir de ce salut. Et il dit, et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Alors il dit, levez-vous, partons d'ici. Ah, ça c'est vraiment un verset, de savoir que tout ce qui s'est passé selon l'ordre que Dieu le Père a donné à son Fils, et son Fils a fidèlement accompli sa mission. Et ceux pour qui il est mort, lorsque l'Esprit, le Consolateur, révèle Christ dans leur cœur, ils se réjouissent aussi dans cette paix. Que le Seigneur bénisse ce que nous venons d'entendre. Amen.